Bonjour, ici Marc, bienvenue au 31e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast pour réapprendre le bonheur, avec aujourd'hui le 31e chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. Merci aux personnes qui ont laissé des étoiles et des commentaires sur iTunes ou qui ont écrit, ça me fait plaisir de voir que ce podcast est utile et apprécié. Merci à Thomas qui apprécie d'avoir accès au livre de Marshall en français et qui s'inquiète du délai depuis l'épisode précédent. Merci à Gurvan pour son don, lui aussi attend la suite. Sur iTunes, Gecko Smurf est reconnaissante et heureuse que plusieurs personnes lui aient parlé de la communication non violente, ce qui lui a permis de découvrir ses nouvelles connaissances qui l'aident à mieux communiquer. Valentine GPE est reconnaissante et trouve le podcast utile. IM Michel apprécie la perspicacité du livre de Marshall et me remercie pour ma traduction. Tonio Kruger apprécie la qualité et la fluidité de la traduction et la chaleur qu'il entend dans ma voix, et par-dessus tout, il est enthousiasmé par ce chemin qu'ouvre la communication non violente vers un bonheur qu'il prend plaisir à partager et qu'il souhaite à tous de partager aussi. Gérard B54 trouve lui aussi le livre de Marshall très utile et très détaillé, il le passe en boucle pour saisir tous les détails, et il est reconnaissant de pouvoir écouter ce livre en complément des stages pratiques qu'il suit. Je suis du même avis, j'ai moi-même écouté ce livre en boucle de nombreuses fois pour arriver à mieux comprendre ce savoir et cette façon de voir la beauté de la vie et de la personne humaine que Marshall Rosenberg partage avec nous. J'aurais voulu publier cet épisode plus tôt pour que vous puissiez en profiter, mais je n'étais pas assez calme pour me concentrer. Je vais raconter rapidement pourquoi, j'espère que ça sera utile à certains, c'est en rapport avec ce dont on parle ici. J'ai eu de gros doutes sur la communication non violente après avoir entendu des révélations sur la vie personnelle de Marshall Rosenberg. Pendant la cérémonie après l'enterrement, un de ses fils a raconté comment Marshall a délaissé sa famille pendant des années quand il s'absentait si longtemps pour aller diffuser la communication non violente, sans téléphoner ni écrire, que ce fils, qui avait 9-10 ans à l'époque, était très inquiet et ne savait plus si son père l'avait abandonné ou pas, ne savait même plus si son père était encore vivant ou pas. J'ai été très troublé de voir comment même un homme comme Marshall Rosenberg, que j'admire autant pour sa lucidité, pouvait avoir de telles contradictions sans en être conscient. J'étais déjà déçu parce qu'à mon avis, très peu de formateurs en communication non violente en personnifient les principes d'une façon comparable à celle de Marshall. Donc, de voir ensuite que Marshall lui-même ne voyait pas les contradictions à ses principes dans sa vie personnelle, ça a réduit ma confiance dans la validité de la communication non violente. Et peu de temps après, il y a un an, ma confiance s'est effondrée, quand des événements m'ont fait exploser à la figure mes propres contradictions, et je me suis aperçu que ce que j'avais appris en communication non violente, ainsi que plus généralement en psychologie, ne me permettait pas de retrouver le calme. Ça faisait quelques années que je cherchais à être plus à l'aise et plus spontané en conversation, pour pouvoir profiter plus de ma vie. Je n'étais pas conscient de ce qui se passait exactement, j'avais du mal à identifier ce que je ressentais. Puis d'un seul coup, après un changement près de moi, mes défenses ont volé en éclats et j'ai réalisé que je devenais très angoissé dès que j'avais l'impression d'être jugé négativement. Mais au lieu de pouvoir réparer quoi que ce soit, comme j'avais espéré en creusant pour trouver ce qui n'allait pas, je me suis retrouvé totalement dépassé. J'ai passé 5 mois avec une angoisse et une douleur si intenses que j'avais peur de ne pas pouvoir les supporter. Je n'arrivais plus à réfléchir, j'étais perdu, dégoûté de tout, désespéré. Et je n'arrivais à trouver de l'aide auprès de personne. Ni mes amis, ni ma famille, ni 5 psychothérapeutes successifs, y compris ceux des services sociaux, ni même un des plus anciens formateurs certifiés que j'ai contacté malgré mes doutes sur la communication non violente. Tous ces gens étaient pleins de bonne volonté, mais pas en mesure de m'aider efficacement. Finalement, un ami m'a mis en contact avec quelqu'un qui avait une grande capacité d'empathie, sauf pour sa famille, et qui apprend la communication non violente pour remédier à ça. C'est cette personne qui m'a apporté assez d'empathie tous les jours pendant plusieurs mois et qui m'a aidé à reprendre pied. J'avais retrouvé confiance en moi au bout de 3 semaines, mais il m'a fallu 6 mois pour récupérer suffisamment pour pouvoir continuer seul. Grâce à cette personne, j'ai aussi repris confiance dans la validité de la communication non violente. Mais j'ai été déçu de constater que malgré mes années passées dans ce milieu, je n'avais rencontré personne qui m'ait témoigné suffisamment de véritable empathie, et du coup je me trompais sur ce que c'est. Je n'avais pas idée du soulagement que ça peut apporter, quand on a l'impression d'être vraiment compris et accepté. Et donc aussi, malgré toute ma bonne volonté, il m'était très difficile d'apporter ça aux autres. D'une part, je ne savais pas suffisamment ce qu'est l'empathie, mais surtout, je n'avais pas suffisamment développé les capacités me permettant d'être en paix avec moi-même. Dès qu'on abordait des sujets sensibles pour moi, je me retrouvais à avoir peur et mon attention n'était plus disponible pour être placée sur une autre personne. La principale de ces capacités que je n'avais pas suffisamment développées pour être en paix, c'était d'abord la capacité à m'accepter et à m'aimer moi-même. Pendant mes premières années, non seulement je n'ai pas été aidé à développer cette capacité, mais en plus j'ai été poussé au contraire. Quand j'étais encore trop jeune pour m'en apercevoir, je me suis retrouvé persuadé que je ne vaux rien et que ma seule chance de survie est de gagner de la valeur en prétendant être celui que les gens autour de moi veulent que je sois. Jouer un rôle était devenu si habituel que je ne m'apercevais pas que je le faisais. Je n'avais pas la tranquillité que ça apporte d'être sûr de sa valeur inhérente en tant qu'être humain, et donc pour moi, perdre l'approbation des autres était catastrophique, parce que j'étais persuadé que ma survie en dépendait. Pas étonnant que je n'arrive pas à être calme et spontané en conversation, quand le moindre reproche évoque en moi, sans que j'en sois conscient, la terreur primitive que ressent un bébé qui se croit abandonné. Maintenant que j'arrive à retrouver le calme, je cherche à tirer les leçons de ce qui m'est arrivé pour en faire bénéficier les autres. Je me trompe peut-être, mais je reconnais chez beaucoup de monde le même genre de peur que moi, y compris chez des formateurs en communication non violente. Ce qui me fait penser qu'apprendre la communication non violente ne suffit pas, car telle que je la comprends, elle ne prend pas en compte qu'on puisse ne pas être conscient de certains des effets des blessures émotionnelles de notre enfance. Marshall raconte comment il lui était difficile de pratiquer lui-même ce qu'il enseignait pour arriver à faire le calme en lui. Comment dans certaines situations, il avait besoin de prendre son temps pour répondre autrement qu'avec rage. Même s'il parvenait à se contenir et même s'il y a des heures et des heures de vidéos qui montrent qu'il savait établir un véritable contact avec beaucoup de monde, je pense qu'il aurait été très heureux de pouvoir contribuer au bonheur d'encore plus de monde s'il avait trouvé comment se soulager de cette colère qui le hantait. D'après ce que j'ai lu, Marshall avait un père qui le frappait au point qu'il ne soit parfois pas en état d'aller à l'école. Pour moi, ça explique sa colère contre toutes les formes d'autoritarisme et de violence, colère qu'il a réussi à contrôler en créant la communication non violente, mais qu'il n'a apparemment pas trouvé comment soulager à sa racine. Je ne vois pas comment on peut intégrer pleinement les principes de la communication non violente et les propager efficacement si on n'a pas suffisamment de paix intérieure. Et pour obtenir cette paix, qu'on aurait déjà si on avait eu suffisamment de soutien autour de nous pendant qu'on grandissait, il me semble nécessaire de développer les aspects de nous qui n'ont pas pu se développer jusqu'ici. Donc, dans les épisodes à venir, après la fin du livre en cours sur la communication non violente, je voudrais parler d'un autre sujet qui me paraît extrêmement important, les traumatismes émotionnels de l'enfance et ce qu'on peut faire pour les soigner. Mais pour l'instant, voici le chapitre d'aujourd'hui. Chapitre 31. Célébrer la vie en exprimant pleinement notre reconnaissance. Je voudrais maintenant que l'on voit comment la communication non violente peut nous aider à célébrer la vie. On a vu comment on peut l'utiliser dans des situations de conflit, que ce soit un conflit à l'intérieur de nous-mêmes ou bien avec d'autres personnes. Mais une application très importante de la communication non violente est de célébrer la vie par la façon dont on exprime de la gratitude envers soi-même et les autres. D'abord, je voudrais préciser le but que l'on recherche en exprimant sa reconnaissance. Si quelqu'un dit « Vous avez fait du bon travail avec ce rapport » ou bien « Vous êtes très perceptive » ou bien « C'était gentil à vous de me proposer de me raccompagner hier soir » ces phrases sont habituellement des remerciements, mais dans un langage qui nous sépare de la vie. Vous êtes peut-être surpris que je considère les louanges et les compliments comme étant anti-vie. Mais remarquez comment on révèle très peu de ce qui se passe en nous quand on s'exprime de cette façon. Et comment ces formulations placent la personne qui les dit dans la position d'un juge qui se prononce sur les actions d'autrui. Je définis les jugements, aussi bien positifs que négatifs, les jugements qui sous-entendent que quelque chose est bien ou mal, comme de la communication qui nous sépare de la vie. Dans les formations que je fais en entreprise, je rencontre souvent des cadres qui défendent cette pratique de faire des louanges et des compliments en disant que « ça donne de bons résultats ». Ils affirment que les recherches démontrent que si un supérieur complimente les employés sur leur travail, ils travaillent plus dur. Et j'entends la même chose dans les écoles. Si les enseignants complimentent les élèves étudient plus. Lorsque les gens citent ces recherches, en général, ils parlent des effets à court terme. Et à court terme, c'est vrai que souvent les gens travaillent plus dur, lorsqu'ils reçoivent des récompenses sous forme de louanges et de compliments. Cependant, les recherches montrent qu'une fois que les gens commencent à s'apercevoir qu'on est en train de les manipuler, les louanges et les compliments cessent d'améliorer les performances. Et ce qui me dérange le plus, c'est que la beauté de la gratitude sincère est souillée lorsque les gens commencent à reconnaître que le but caché derrière la gratitude est de leur soutirer quelque chose. Lorsqu'on utilise la communication non violente pour exprimer notre reconnaissance, c'est purement par célébration, pas parce qu'on veut quelque chose en retour. Notre seule intention est de partager le bonheur que l'on ressent lorsque quelqu'un enrichit notre vie. Plus d'une fois, on m'a fait la remarque. Oui, mais et si vous voulez donner à quelqu'un plus d'estime de soi ? Je réponds à ces gens que je voudrais qu'ils voient ce qu'ils sont en train de dire. Je voudrais qu'ils voient que si quelqu'un dépend pour son estime de soi, des louanges et des compliments que les autres lui font, alors je ne dirais pas qu'on donne à cette personne plus d'estime de soi, je dirais qu'on l'a rendue dépendante de l'approbation des autres. Pour exprimer de la reconnaissance en communication non violente, il y a trois choses à clarifier. D'abord, les actions que l'autre personne a faites, qui ont contribué à notre bien-être. Ensuite, quels besoins chez nous ont été satisfaits par ces actions. Troisièmement, les ressentis agréables qui ont été générés par le fait que nos besoins soient satisfaits. L'ordre de ces éléments peut varier et parfois les trois peuvent être transmis par un sourire ou un simple « merci ». Cependant, si on veut s'assurer que notre gratitude est pleinement reçue, mon expérience m'indique qu'il est utile de développer notre capacité à exprimer verbalement ces trois éléments. Le dialogue suivant montre comment des louanges peuvent être transformées en de la reconnaissance qui incorpore chacun de ces trois éléments. Une participante s'approcha de moi après un atelier et dit « Marshall, vous êtes fantastique !» Je lui répondis « Je n'arrive pas à recevoir autant que je voudrais de cette reconnaissance que vous donnez. » La participante dit « Hein? Quoi? Pourquoi vous dites ça ?» Je dis « Vous savez, dans ma vie, on m'a beaucoup dit que je suis ceci ou cela, parfois quelque chose de positif, parfois pas positif du tout, mais je ne me souviens pas avoir jamais appris quoi que ce soit de précieux quand on me dit ce que je suis. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque valeur à s'entendre dire ce qu'on est. J'aimerais tirer du plaisir de votre reconnaissance et en apprendre quelque chose, et pour ça, il me faudrait des informations autres que seulement me dire ce que je suis. » La participante demanda « Comme quoi ?» Eh bien d'abord, je voudrais savoir ce que j'ai dit ou fait qui a enrichi votre vie aujourd'hui. Elle dit, vous êtes si intelligent. Je dis, ah, j'ai bien peur que vous veniez de me donner un autre jugement qui me dit ce que je suis. Mais ça me laisse toujours perplexe à me demander ce que j'ai fait qui d'une façon ou d'une autre a contribué à votre vie. Elle réfléchit un moment, puis elle regarda dans les notes qu'elle avait prises et dit, ah, je vois ce que vous voulez dire. Regardez ça, vous avez dit ces deux choses. J'ai regardé ce qu'elle avait noté. Oui, j'ai bien dit ces deux choses. Ah, c'est donc à propos de ces deux choses que j'ai dites que vous voulez me parler. Elle dit, oui. Et je dis, et maintenant je voudrais savoir, qu'est-ce que vous ressentez après que j'ai dit ces deux choses? Elle dit, soulagée et pleine d'espoir. Je dis, d'accord, voilà qui me permet de plus savourer votre gratitude. Et maintenant, ce qui m'aiderait vraiment à en tirer du plaisir, je voudrais savoir lesquels de vos besoins ont été satisfaits après que j'ai dit ces deux choses. Elle dit, c'est au sujet de mon fils de 18 ans, je n'arrive pas à communiquer avec lui. Depuis qu'il a 5 ans, on n'arrête pas de se disputer et on n'arrive jamais vraiment à s'entendre. Je désespérais à force de chercher sans succès des solutions pour avoir plus de chaleur entre nous. Et ces deux choses que vous avez dites ont satisfait mon besoin de solutions concrètes pour arriver à une bonne connexion avec lui. En entendant toutes les trois informations, ce que j'avais fait, ce qu'elle ressentait, lesquels de ses besoins étaient satisfaits, je pouvais alors célébrer cette gratitude avec elle. Si elle avait exprimé sa reconnaissance dès le début en utilisant la communication non violente, ça aurait pu donner par exemple « Marshall, lorsque vous avez dit ces deux choses, et là elle me montrait les deux choses qu'elle avait notées, Lorsque vous avez dit ça, j'ai ressenti de l'espoir et du soulagement, parce que j'avais vraiment besoin d'une solution pour arriver à établir le contact avec mon fils, et ces deux choses m'ont donné cette solution que je cherchais pour rétablir ce lien que je veux avoir avec lui. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, ce qui aussi me fera plaisir, laissez un commentaire sur iTunes s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. Et si vous voulez en faire profiter vos amis, parlez du podcast autour de vous ou sur les médias sociaux que vous fréquentez. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 32e chapitre de la communication non violente. À bientôt !